France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le lancement des états généraux de la bioéthique qui doivent nourrir la prochaine loi bioéthique attendue au Parlement à l'automne. Parmi les sujets sensibles, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires, dossier suivi par Tara Schlegel. Après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement prépare l'évacuation de la zone. Les routes d'accès au site seront libérées, affirme le ministre de l'Intérieur, d'ici à la fin de la semaine. Monsieur Collomb qui souhaite que cela se fasse par la discussion et la négociation plutôt que par la force. On retrouvera sur place Véronique Rebérotte. Bilan politique et économique de cette opération avec Frédéric Seiss et Anne-Laure Chouin. C'est le quatrième jour de la mobilisation des personnels pénitentiaires avec de nombreuses prisons encore bloquées ce matin. Des gardiens qui réclament toujours plus de sécurité. Reportage de Xavier Demani. Et puis un sommet franco-britannique à Stanhurst au sud de Londres. Emmanuel Macron, Theresa May qui doivent annoncer un nouveau traité pour notamment renforcer la coopération policière franco-britannique à la frontière. Analyse avec Marie-Pierre Véraud, l'invité de la séquence interview, le politologue Jérôme Fourquet, auteur de « À la droite de Dieu » publié aux éditions du CERF. Les états généraux donc de la bioéthique sont lancés aujourd'hui. C'est une vaste concertation qui va être pilotée par le Conseil consultatif national d'éthique. L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires, mais aussi aux couples de femmes, va figurer sans doute en bonne place dans ces discussions. En tout cas, ce sont des discussions qui vont être déclinées en région. Une consultation qui, dit-on, va s'adresser à tous, aux médecins, aux experts, aux associations, mais aussi aux simples citoyens et aux jeunes, avec des débats dédiés aux étudiants et aux lycéens. Des échanges jusqu'à l'été qui vont nourrir cette prochaine loi bioéthique attendue au Parlement à l'automne. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Peut-être un mot d'abord de cette méthode utilisée, en quoi est-elle originale particulière?
Alors, méthode originale Antoine, mais la loi l'exige régulièrement, nos lois bioéthiques sont révisées, c'est obligatoire tous les 7 ans et depuis 2011 l'exécutif doit garantir l'organisation d'un débat public qui prend même, c'est dans les textes, la forme d'états généraux. À charge pour le patron du comité d'éthique d'échafauder toute la mécanique, le professeur de médecine Jean-François Delfrécy, qui a longtemps travaillé sur le sida et les hépatites, est arrivé il y a un an à la tête du comité. Il a donc avec son équipe imaginé le tout. Une soixantaine de débats en région, pilotés par les agences régionales de santé, avec beaucoup d'experts qui donneront des conférences, des citoyens qui s'exprimeront. À chaque fois, une synthèse est envoyée au CCNE, le comité d'éthique nationale. Ce dernier va auditionner à Paris une centaine d'associations, experts, sociétés savantes, pour parfaire son propre avis. Enfin, un comité citoyen est créé. Lui sera représentatif, j'imagine au sens sondagier du terme, de la population française et il suivra tous les débats, va s'approprier aussi certains sujets. L'ensemble des contributions sera visible sur Internet. Les citoyens, vous et moi, pourront aussi donner leur avis sur le web. Tout ça pour éclairer in fine le législateur qui veut réviser la loi courant 2019. Les critiques disent que ces débats pourraient se résumer à comptabiliser les pros et les anti sans aborder réellement, en prenant le temps, les questions de fond.
En tout cas, il y a un peu de temps puisque c'est prévu pour jusqu'à l'été. Des discussions qui démarrent maintenant. Peut-être on peut rappeler, Tara, les sujets les plus sensibles.
Alors évidemment, tout le monde en parle. En premier lieu, la PMA, procréation médicalement assistée, ouverte donc aux couples de femmes peut-être et aux femmes célibataires. La société, si on en croit les sondages cette fois, est mûre, mais là encore on écarte peut-être certains débats, celui du coût par exemple de cette mesure qui est gratuite aujourd'hui en France, celui de l'anonymat des donneurs de sperme garanti en France, mais les enfants sans papa social accepteront-ils de ne jamais savoir qui est leur père biologique? Il y a aussi la gestation pour autrui, le président Macron est contre, mais si on offre demain la possibilité aux femmes homosexuelles d'avoir des enfants, eh bien, comment ou pourquoi priver les hommes homosexuels de ce désir? Il y a l'euthanasie qui va ressurgir, bien que ce thème ne fasse pas partie de la loi bioéthique qui sera révisée. Il reste central, cette pratique est toujours interdite en France. Enfin, d'autres questions plus techniques restent cruciales, le génome, la thérapie génique, les recherches sur l'embryon. Bref, sur tous ces sujets, l'ensemble du corps social doit réfléchir. Pendant quelques mois, chacun aura la parole et les représentants des cultes, notamment, ont obtenu l'assurance en voyant Emmanuel Macron tout récemment, fin décembre, qu'il pourrait au moins s'exprimer.
Merci beaucoup Tara Schlegel, les représentants des cultes. Ça nous amène au sujet qui va nous occuper avec notre invité aujourd'hui, Jérôme Fourquet. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, vous publiez donc cette étude intitulée « À la droite de Dieu » sur l'électorat catholique et ses motivations, ses positions. Est-ce qu'il y a encore un sujet dans ces révisions de loi bioéthique qui pourrait raviver un mouvement mouvement de même nature du genre Manif pour tous.
Alors clairement, comme vous l'avez indiqué, le gros morceau, c'est la généralisation ou l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles. Dans nos enquêtes, on voit que les Français sont majoritairement favorables à cette ouverture. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui peuvent faire bouger un peu les lignes, notamment le fait que mécaniquement, si je puis m'exprimer ainsi, les enfants qui naîtraient ainsi n'auraient pas de père. Et donc on voit, quand on pose la question en anglant sur cet aspect-là des choses, les résultats qu'on obtient sont moins favorables à la généralisation de la PMA. Et puis quand on
c'est
regarde...
d'ailleurs un argument déjà utilisé sur certaines affichettes. Est-ce que c'est bien de ne pas avoir de père, etc.
Tout à fait.
On
tout
me
à
dit
fait.
Que je n'ai pas de père.
Exactement. Ouais. Et quand on regarde que pensent les catholiques pratiquants, eux, ils sont à front renversé par rapport à l'ensemble de l'opinion publique. 60% de nos concitoyens, d'après les dernières enquêtes d'Olifop, sont favorables à la généralisation de la PMA. Et un tiers seulement des catholiques pratiquants, ils seraient favorables. Donc on voit qu'il y a encore potentiellement un réservoir de mobilisation possible pour les opposants de ce côté-là. Maintenant, il y a quand même des distinguos à opérer par rapport à la précédente séquence. D'une part, la longue et importante mobilisation en 2012-2013 contre la loi Taubira s'est soldée par un échec. Et comme dans un conflit social, quand vous sortez d'un échec, quand vous sortez battu, c'est difficile de refaire partir vos troupes à la bataille. Et puis, à l'époque, 2012-2013, les gens étaient descendus dans la rue, certes pour le sujet en lui-même, mais aussi vis-à-vis du gouvernement qui le portait, un gouvernement clairement marqué à gauche, avec du coup un effet repoussoir ou épouvantail, ou chiffon rouge qui fonctionnait assez bien. Cette année, si, comme on peut le penser, le gouvernement s'engage à prendre la mesure annoncé par Emmanuel Macron, celui-là aura à cœur de ne pas essayer de humilier, comme il avait dit, cette partie de la population et donc de ne pas donner de nombreux motifs supplémentaires à une mobilisation. Donc il y aura sans doute peut-être une mobilisation, mais peut-être pas aussi importante qu'à l'époque.
Jérôme Fourquet, on vous retrouve à la fin de cette édition donc pour la séquence interview. L'obsession du gouvernement, c'est désormais de faire appliquer sa décision avec succès, donc d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Invité de RTL ce matin, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, demande aux occupants de la ZAD de faire un geste rapide, que les routes soient notamment restituées à l'État. Les routes d'accès seront libérées d'ici la fin de la semaine prochaine, affirme de son côté plus nettement encore le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui souhaite que ça se fasse par la discussion, la négociation, plutôt que par la force. On est en ligne avec Véronique Rebérotte. Bonjour.
Bonjour.
Alors au lendemain de cette annonce d'abandon, comment ça se présente cette question de l'évacuation? Il semble qu'il y ait quand même une certaine pression qui soit d'ores et déjà mise sur les zadistes pour dégager cette fameuse route principale.
Absolument. Je ne sais pas si on peut parler de pression amicale. En tout cas, depuis ce matin, sur les routes menant, traversant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, plusieurs voitures de gendarmes ont fait leur réapparition. Elles sont postées donc aux abords de la ZAD, contrôlant ceux qui en sortent, surtout, autrement dit, ceux, et ils ne sont peut-être pas rares, hein, sur la ZAD, qui n'ont pas tout leur point sur le permis, leur assurance ou contrôle technique à jour. Ils sont susceptibles d'être embêtés, peut-être. Alors, un premier signe de l'État qui affirme effectivement vouloir aujourd'hui mettre fin à la zone de non-droit, mais si possible sans une évacuation redoutée autant par le gouvernement que les zadistes. D'ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe, qui connaît les risques d'une évacuation. Dégager la départementale 281, la route des chicanes, sera certes pas forcément le plus dur. Une réunion tout de même interne à la ZAD entre zadistes se tient actuellement pour convaincre les plus radicaux d'ôter les obstacles. Nous y sommes passés ce matin. Il y a toujours des cabanes, des chicanes, des obstacles en tout genre, des carcasses de voitures qui se trouvent sur la route. Ils ont encore donc 10 jours pour tout nettoyer à la sans quoi, eh bien, l'État devra affirme qu'il l'évacuera. En tout cas, pas d'intervention, pas d'évacuation non plus pour tous les occupants illégaux dans l'immédiat. L'expulsion par la force n'est programmée par le gouvernement que si les zadistes refusent de partir d'eux-mêmes. Ils ont jusqu'au 30 mars pour le faire. Ils bénéficient de la trêve hivernale. Le gouvernement mise, il rêve en tout cas de départ volontaire. Le mouvement d'opposition dans sa globalité lui a exprimé dès hier, le jour de la victoire, bien son refus de toute expulsion. Ils ont gagné ensemble, ils resteront tous ensemble. Historiques et zadistes, ils se doivent mutuellement beaucoup, disent-ils. Les discussions qui vont maintenant s'engager sur l'avenir de la ZAD, sur les conditions du maintien sur place des zadistes, eh bien, permettront, espère la plupart des squatteurs de la ZAD, de trouver une solution avec comme modèle, bien sûr, la réussite du Larzat et des discussions qui ont suivi l'occupation.
Véronique Roberotte, en direct de Notre-Dame-des-Landes, avec Nicolas Mathias. Quel bilan politique peut-on faire de cette décision prise par le gouvernement hier? La satisfaction globale qu'elle mette finalement un terme quand même à ce débat qui est vieux de plus de 20 ans maintenant, ou de près de 20 ans, pourrait l'emporter sur les critiques qui sont toutefois encore nombreuses ce matin, qui concernent notamment le déni démocratique. Frédéric Seyss.
Oui, en termes de gestion politique, c'est la question suivante. Que sera-t-il retenu de cet épisode? Le fait d'avoir tranché au crédit du gouvernement, ou bien celui d'avoir reculé, contrairement à ses engagements de campagne, au vote des citoyens et aux décisions de justice? Question ouverte, dont on ne pourra envisager la réponse qu'à moyen terme, notamment en fonction de la suite des événements dans la ZAD dont on parlait à l'instant. Premier indice partiel donné ce matin avec une étude d'opinion qui donne que 3 sondés sur 4 approuvent l'abandon du projet. Un tiers estime même que c'est une très bonne décision. Sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro. Cela dit, il y a des éléments plus objectifs qui permettent de constater au moins une réussite sur la méthode. D'abord, au sein de la majorité, cette décision n'a pas provoqué de scission ou d'esclandre. Vous savez qu'il y avait pourtant certains poids lourds qui étaient très favorables au projet d'aéroport, comme Richard Ferrand ou Jean-Yves Le Drian. Ils se sont contentés de prendre acte tout en saluant le processus de décision. Pas de triomphalisme non plus dans le camp des vainqueurs. Nicolas Hulot fait profil bas. Le ministre de l'Environnement affirme d'ailleurs avoir douté jusqu'au bout, n'avoir eu aucune garantie avant la fin du processus de consultation. Alors, est-ce vrai ou pas? Impossible à dire, mais personne ne peut démontrer que l'abandon était prévu de longue date. Cela suffit à consacrer la méthode Philippe, même si l'opposition de droite fustige une capitulation, voire un manque d'autorité de l'État. Un reproche que veut éviter le gouvernement. Les zadistes n'ont pas gagné, disait ce matin Christophe Castaner sur Europe 1. En tout cas, cette méthode du gouvernement, un long temps d'écoute, de dialogue, d'échange, pourrait servir de cadre, de modèle maintenant pour les sujets sociétaux qu'on évoquait, très clivants, la PMA, la fin de vie, qui sont à venir dans le calendrier législatif.
Frédéric Seyss, merci. On vous retrouve demain pour votre billet à 8h15 sur France Culture. Volet économique maintenant, avec le gouvernement qui a aussi affiché sa volonté de défendre ses intérêts dans les négociations, notamment avec Vinci, puisque le contrat est rompu, et la volonté affichée par le gouvernement d'épargner au maximum, évidemment, le contribuable à leur choix. Est-ce qu'on peut faire un bilan économique maintenant de cette décision?
Alors, ce sera effectivement plus facile quand ces négociations qui vont commencer entre l'État, Vinci et les collectivités locales seront terminées. Ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que le désormais ex-concessionnaire de Notre-Dame-des-Landes ne sera pas le grand perdant de l'abandon du projet. D'abord, parce que dans tout projet de ce genre, il bénéficiera de frais de résiliation dont le montant estimé par les médiateurs se porte au maximum à 350 millions d'euros, peut-être moins, car cette compensation devrait se négocier à l'aune de nombreux autres éléments, notamment sur la possibilité pour l'État de favoriser Vinci dans d'autres domaines. On sait le groupe de BTP très intéressé par l'achat de tout ou partie d'ADP, le groupe Aéroport de Paris, qui va bientôt être privatisé. Bref, Vinci devrait y retrouver ses petits. En revanche, 6 collectivités locales avaient déjà mis de l'argent dans le projet, 31 millions d'euros au total, dont 18 de subventions à la structure Aéroport du Grand Ouest, la filiale de Vinci. Comment vont-elles être indemnisées? Ils sont un certain nombre d'élus locaux à réclamer une compensation des collectivités locales qui devait par ailleurs toucher un pourcentage annuel du chiffre d'affaires de l'aéroport une fois qu'il aurait été construit, puisque c'était une concession. La question du coût du réaménagement de l'aéroport actuel se pose également. Allongement de la piste, réaménagement des abords de l'aéroport, qui prendra en charge, la collectivité ou l'actuel concessionnaire? Les opposants qui avaient étudié ce cas de figure chiffrent en tout cas que les travaux à prévoir coûteraient beaucoup moins cher que ceux du nouvel aéroport. Enfin, quel coût en emploi dans le bassin économique nantais? 2500 emplois qui ne seront pas créés, estime la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Des emplois qui auraient été temporaires, voire hypothétiques, estiment de leur côté les opposants au projet.
Anne Lorchouin, merci. On est au quatrième jour de la mobilisation des personnels pénitentiaires, avec de nombreuses prisons encore bloquées ce matin. Des gardiens qui réclament toujours plus de sécurité après plusieurs agressions, celle de 3 d'entre eux jeudi dernier à Vendin-le-Vieil, notamment dans le Pas-de-Calais. Des négociations se sont tenues ce matin entre les syndicats et l'administration pénitentiaire, et un document est à l'arbitrage de la garde des Sceaux et de Matignon. La bataille pour reprendre la tête du Parti Socialiste. Julien Drey annonce à son tour qu'il sera candidat. 5 autres candidats se sont déjà désormais déclarés pour ce poste de premier secrétaire: Delphine Bateau, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Morel. Il y aura un sommet franco-britannique à Sandhurst aujourd'hui, au sud de Londres. Emmanuel Macron et Theresa May doivent annoncer un nouveau traité pour compléter les fameux accords du Touquet sur la gestion des migrants qui veulent aller au Royaume-Uni. Nouveau traité qui aura une force juridique juridique équivalente à ces accords et qui prévoira notamment de renforcer la coopération policière franco-britannique pour la gestion de cette frontière. Et le sommet va aussi aborder plus généralement les coopérations dans la défense, dans le renseignement. Bref, Marie-Pierre Véraud, c'est un peu l'occasion de reconfigurer cette relation franco-britannique après le Brexit.
Et surtout d'en réaffirmer la pertinence à un moment en effet particulier. Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne qu'il quitte l'Europe. Ces propos de Theresa May en amont du sommet franco-britannique pourraient être ceux d'Emmanuel Macron. Dans la présentation des enjeux de cette rencontre, l'Élysée a en effet tenu à insister sur l'importance de la relation bilatérale très forte qu'il ne faudrait pas affaiblir dans le contexte de ces négociations du Brexit. Alors, on va multiplier les amabilités et les symboles pour illustrer, citons encore une fois l'Élysée, la richesse de cette coopération. Elle repose sur trois piliers. Sécurité partagée, c'est le plus important. Solutions partagées en matière d'innovation, de recherche et développement. Et avenir partagé pour la coopération humaine et culturelle. On le voit, les communicants de l'Élysée ont fait assaut de belles formules. Mais au-delà, il y a une réalité. D'abord, un contexte favorable à la réaffirmation de ce lien particulier, le Brexit, qui offre un espace pour redéfinir des relations bilatérales, quand le net refroidissement des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis fragilise cette relation spéciale qui a toujours uni les deux alliés. Côté défense, l'entente cordiale se porte bien, merci. Trois nouveaux hélicoptères britanniques seront envoyés au Mali. La Grande-Bretagne s'engage à épauler la France au Sahel, sans oublier une aide financière accrue. De son côté, la France renforcera son contingent en Estonie aux côtés des soldats britanniques. Les projets de développement du drone de combat futur, de missiles seront réaffirmés. Les exercices conjoints des deux armées se multiplient et surtout, Brexit ou pas, Londres restera engagée dans le renseignement. On sait que le travail de ses services est crucial dans la lutte antiterroriste particulièrement. D'ailleurs, pour la première fois, en amont de ce sommet, les responsables des cinq agences de renseignement intérieur et extérieur, françaises et britanniques, se sont retrouvés. La sécurité commune est bien le maître mot de ce sommet entre les deux seuls États européens, membres permanents du Conseil de sécurité et puissance nucléaire. Même les accords sur la question migratoire sont dominés par les financements pour renforcer encore la frontière commune avec force caméras infrarouges et barrières de sécurité.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Donald Trump a annoncé hier des prix fake news. 2017, année selon lui d'une partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et même de fausses informations éhontées. C'est ce qu'on pouvait lire en tout cas en introduction de cette liste qui désignait les médias les plus corrompus, je cite, les plus biaisés, sans surprise. Cette dernière inclut CNN, le New York Times ou encore le Washington Post. Ce sont les cibles habituelles de Monsieur Trump. En pole position, un économiste, Paul Krugman. Ce dernier avait affirmé le jour de la victoire du président Trump que l'économie ne s'en remettrait jamais avant de rappeler, le site rappelle que Wall Street bat maintenant tous ses records. C'est une initiative très controversée, dénoncée par avance d'ailleurs par deux sénateurs de son propre camp qui se disent effarés par ces assauts répétés présidentiels contre la presse. Nabila Hamel.
Oui, alors si l'on voit ce premier prix, en quelque sorte, Paul Krugman, qui est le Nobel de l'économie 2008, peut-on émettre un avis, même si cette précision ne s'est pas confirmée par la suite? Était-ce une fake news? En revanche, parler de la victoire écrasante de Donald Trump est-elle juste, puisque c'est comme ça qu'est libellé ce fameux prix, entre guillemets, dans cette nouvelle académie, en quelque sorte, qu'il a instituée par un tweet, lequel renvoie à un site? Le président américain estime que 2017 a été une année de partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et de fausses informations honteuses, et désigne donc les médias les plus corrompus et les plus biaisés, vous les avez cités. Des études ont démontré que 90% de la couverture médiatique du président Trump est négative, poursuit le site, mais aucune source, aucune précision ne vient étayer ou expliquer en quoi ces informations sont négatives et en quoi négative égale fausse. Donald Trump se comporte en chef d'entreprise dont les paroles ou les faits ne doivent pas être discutés et en ancien producteur de télé-réalité qui, comme pour le programme The Apprentice, aimerait pouvoir virer d'un mot ou d'une formule celui qui viendrait à le critiquer. Deux sénateurs républicains, Jeff Flake et John McCain, sont d'ailleurs montés au créneau pour dénoncer la dérive dangereuse que représentent à leurs yeux les attaques quasi quotidiennes contre les journalistes. Des attaques, disent-ils, qui peuvent encourager des régimes répressifs à suivre cet exemple.
Nabila Hamel, merci beaucoup. Retour vers vous, Jérôme Fourquet. Vous êtes pour une loi pour condamner les fake news éventuellement?
Je ne sais pas à moi de me prononcer là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de risques quant à la définition et de celui qui tiendra le stylo pour indiquer qu'est-ce qui est une fake news ou qu'est-ce qui en est pas. Une fois qu'on a dit ça, l'IFOP a réalisé une récente enquête visant à évaluer le degré de diffusion de ce qu'on appelle les théories du complot et leur potentiel adhésion auprès du grand public, et les chiffres sont quand même assez évocateurs. On a
ça augmente.
Voilà, on n'avait pas de point de comparaison, mais on a à peu près un quart de la population qui adhère sans trop de difficultés potentiellement à toute une série de thèses qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Donc on voit que ces fake news, elles font partie d'un sujet plus vaste, hein, c'est l'accès à l'information et comment on la contrôle.
Et comment on la fabrique aussi. Merci.
Exactement.
Jérôme Fourquet, on revient à votre livre, donc à la droite de Dieu, publié aux éditions du CERF, une question de Stéphane Robert.
À la droite de Dieu, oui, ou comment une partie de la communauté catholique est devenue une sorte de lobby, et comment le vote catho est devenu un véritable enjeu politique. Paradoxalement, vous expliquez que ça se passe dans un phénomène de déchristianisation accélérée.
Oui, alors la thèse que je défends, c'est qu'il y a une forme de radicalisation qui prend racine dans la prise de conscience chez les catholiques d'être devenu une minorité parmi d'autres. Et c'est un choc culturel sans précédent dans un pays qui a longtemps été la fille aînée de l'Église. Hein, je donnerai juste deux chiffres. En 1961, l'IFOP réalise une enquête qui indique que un tiers, 35% de nos concitoyens de l'époque, déclaraient aller à la messe tous les dimanches, voire plus souvent, rien que déjà l'item était assez parlant. L'IFOP a réitéré cette enquête en 2012, 50 ans plus tard, on est tombé à 6%. Le choc, il intervient notamment au moment du débat sur le mariage pour tous, avec, en dépit d'une large mobilisation de la France catholique, et pas seulement de la France catholique, c'est un texte de loi qui va être voté, contrairement à la précédente grande mobilisation d'envergure de 1984 pour la défense de l'enseignement libre, qui à l'époque avait fait reculer le gouvernement. Donc il y a statut de minorité qui apparaît comme évident, et donc pas tous, mais une partie de ces catholiques vont opérer un espèce de raidissement, et d'autres vont aussi prendre acte de tout cela en disant « il faut que nous redevenions davantage audibles à la fois dans le débat public, mais aussi que nous reprenions, ça peut être d'autres segments de ce monde catholique, la route ou le chemin de l'évangélisation, parce qu'on est dans une société qui est massivement déchristianisée. Et jusqu'à présent, ça ne s'était pas trop vu, mais à partir du moment où le législateur se pique éventuellement de promouvoir un certain nombre de lois qui seraient fondamentalement en contradiction avec nos convictions profondes, nous n'avons plus les moyens politiques, culturels et sociologiques de nous y opposer, et nous subirons.
Et donc la traduction politique de tout ça, et comment est-ce que finalement on a vu que les candidats aux dernières élections présidentielles ont tenté de récupérer ce vote catholique?
Alors, il y a ce mouvement de fond, et puis face à cette prise de conscience d'une déchristianisation de la société, il y a également dans une partie de ce monde catholique une inquiétude qui est latente, qui taraude très fortement, c'est la concurrence perçue vis-à-vis de la montée en puissance ou du développement du culte musulman en France, avec dans un premier temps une espèce de concurrence, et puis maintenant, pour certains catholiques, on est passé de l'inquiétude face à une concurrence à l'inquiétude face à une menace, avec une date très sensible, c'est le 26 juillet 2016, avec l'égorgement du prêtre Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc là, on le voit aussi ces dernières semaines sur la question des migrants, par exemple, un certain nombre de catholiques qui sont soit en désaccord, soit mal à l'aise avec les propos du pape, on a toute une frange du monde catholique qui, aujourd'hui, se raidit politiquement. Et ça s'est traduit au moment de la primaire de la droite, et puis ensuite au moment de la présidentielle, avec ce qui a été un choc pour de nombreux catholiques et de nombreux commentateurs, le fait que 4 pratiquants sur 10 aient voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, sans que les évêques, contrairement à 2002, à l'époque, n'est appelé à voter contre Marine Le Pen. Donc tout ça, on voit qu'il y a une espèce de tectonique des plaques qui s'est mise en branle et qui redessine un petit peu les contours avec une frange droitière du catholicisme qui s'est emparée de la parole et qui dispute le leadership à ce qui a été souvent, longtemps l'apanage des cathos de gauche, hein, qui eux-mêmes n'ont pas disparu, mais qui sont moins audibles aujourd'hui.
Il y a eu une partition des votes, justement, alors, avec, entre François Fillon, qui a perdu une partie du vote catholique, vous avez expliqué aussi, et ça s'est réparti différemment selon différentes considérations, en deux petits mots.
Alors, François Fillon, chez les catholiques pratiquants, fait le même score que Nicolas Sarkozy en 2012. Mais c'est au deuxième tour que les choses basculent, hein, avec toute une partie de cet électorat de droite catholique orphelin, puisque leur candidat a été éliminé, qui décide de se reporter, pas majoritairement, mais significativement, sur Marine Le Pen.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Fourquet, à la droite de Dieu. Donc je donne aussi le sous-titre, comme ça donne une idée de ce qu'il y a dans le livre. Un manif pour tous, primaire, migrant, François Fillon, PMA, sens commun, chrétien d'Orient, Marion, maréchal Le Pen, catholique, et puis une question catholique vers la radicalisation.
Je vous le recommande vivement.
Point d'interrogation, édition du CERF.
Merci.
Une nouvelle perturbation circule sur les trois quarts nord du pays. Ailleurs, un ciel toujours un peu couvert, sauf des Pyrénées au sud-est, où le soleil sera un peu plus généreux. Il fera cet après-midi de 9 à 16 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.